Bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la MO Samarcande.
Voici la Terre à Feu, une famille moderne de la...
Mon papa, même si aujourd'hui c'est très conflictuel, ça reste une personne très importante pour moi. Quand il est là, il y a du soleil partout dans ma vie. Malgré toutes les crasses qu'il me fait, ça reste mon papa.
Oui. Bienvenue pour ce nouveau podcast intitulé « Les petites boîtes de pensée fermées ». Dans ce nouveau podcast composé de 3 épisodes différents, nous allons parler des raisons qui peuvent nous enfermer dans des petites boîtes de pensée fermées et qui ne nous permettent plus une certaine idée du vivre ensemble. Sur base de 2 témoignages de jeunes rencontrés en IPPJ, nous questionnerons la notion de valeur familiale notamment et l'influence de celle-ci dans la construction identitaire d'un adolescent. Nous aborderons aussi la question des mécanismes de ces petites boîtes de pensée fermées qui font mal aussi bien à celui qui en détient la clé qu'à ceux qui la lui procurent. Et nous élaborons quelques pistes de réflexion sur le travail social notamment. Pour nous y aider dans cette réflexion, j'ai fait appel à 3 intervenants. Dounia, jeune éducatrice de 20 ans, toujours aux études. Nolan, conseiller philosophique à l'IPPJ de Wautier-Bresnay qui a très bien connu les 2 jeunes qui témoignent. Et Annette, une prof à la retraite de 80 ans. Bonne écoute et bonne réflexion. Tu me disais que papa, avec toi, il était quand même assez violent aussi. Il te frappait beaucoup. Est-ce que pour toi, ça rentre dans l'attitude, dans l'habitude parfois des pères de corriger leur enfant? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui était normal?
Oui, moi je vois ça normal. Enfin, moi je ne le ferais pas. Mais je pourrais comprendre en fait. Mais peut-être pas accepter la façon dont ils font, mais je pourrais comprendre. Par exemple, chez nous, je ne vous cache pas, 80% frappent leur enfant. Pas les filles. Les garçons, pour les corriger, pour les intimider, pour ne pas recommencer, tout ça en fait. Ce n'est pas des coups de poing, des coups de pied, non. C'est de temps en temps une claque, une baffe, tout ça. Et des fois un coup de ceinture pour intimider juste. Mais ce n'est pas abusif en fait.
Mm-hmm.
Un homme chez nous se doit de gérer ses émotions en fait, pour ne pas donner une image de faible devant ses enfants ou sa femme. Puisque ça pourrait détériorer cette image de protecteur.
Quel regard tu portes sur ton papa maintenant?
De son emprisonnement ou de son histoire?
De cette rupture dans votre famille.
Ça fait 4 ans. 4 ans et quelques mois, je pense. Il est toujours en prison.
Pour moi, ma famille, ça reste quand même quelque chose d'assez important. C'est une part de ma vie. C'est une part de mes valeurs, une part de mon éducation. C'est moi, quoi. Ma famille, c'est voilà, une part de moi. Mais c'est aussi ma famille qui m'a conduit parfois à des passages plus tristes dans ma vie, à des conduites dangereuses pour moi et pour les autres. Et ma famille, ça a été aussi une étiquette que je portais parce que je viens d'un milieu noble. Et voilà, et dans ces familles-là, on a certains codes à respecter, etc. Donc c'était pas facile non plus à vivre. Et j'avais souvent aussi cette étiquette du petit riche qui a une vie parfaite. C'est quand même une grosse période de ma vie qui m'a conduit dans une dépression.
Parce que si mon père aurait fait tout correctement, je pense pas qu'on serait arrivé là. Si on avait reçu je ne dirais pas une bonne éducation, mais une
éducation plus juste et plus
meilleure
plus,
éducation, ouais.
Plus respectueuse aussi au niveau de qui vous êtes, Igor.
Exactement. Je pense que ce sont des blessures qui se cicatriseront qu'avec le temps et l'éloignement du milieu de vie commun, en fait.
Et en quelques mots, si tu devais exprimer les reproches que tu aurais à leur faire, ce serait quels reproches?
Avant l'abandon, enfin le semi-abandon de ma maman, parce que elle se réfugiait dans l'alcool, et donc pour moi, j'avais plus de maman. Quand elle buvait, c'était plus la même personne. Donc c'était comme une sorte d'abandon, ma mère qui me lâchait. De la manipulation de ma part de ma maman aussi. Et puis mon papa, un manque de présence et d'écoute pour ses enfants.
Qu'est-ce que tu ressens à l'écoute de ces témoignages?
Beaucoup de sincérité, beaucoup de recul. J'ai l'impression qu'ils sont assez conscients de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris le temps de bien réfléchir sur leurs actions et savent maintenant expliquer le pourquoi du comment, essayer de comprendre, d'élucider qu'est-ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Je les trouve très intelligents et très, très raisonné. Et ils le disent tous les deux, hein, que la famille, c'est eux finalement. C'est ce qui leur permet de créer un peu cette identité. Et que finalement, dans cette création d'identité avec la famille, c'est un petit peu... C'est un peu difficile, ça les a mis dans des périodes assez sombres. Et comme ils le disent tous les deux, s'il y avait peut-être eu, on va dire, une présence finalement, comme ils le disaient eux, juste, ben ils ne seraient pas ce qu'ils sont maintenant.
Fortement touché parce que bien entendu les voix me parlent, les deux jeunes que j'ai pu rencontrer. Et ça fait quelque chose, ça fait remémorer des souvenirs, c'est replonger dans leurs problématiques et du coup ça touche personnellement. Ça fait poser des questions sur qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Savoir où ils en sont. Et de me dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment deux personnes intelligentes qui, en tout cas, quand on les a laissées, m'ont laissé croire qu'ils allaient s'en sortir dans la vie, malgré les étapes qu'ils ont rencontrées.
Oui, ça évoque quand même beaucoup des situations très tristes, mais la façon dont ces jeunes gens parlent montre déjà que, quelque part, ils ont pu passer le cap. Mais ce qui est mal fait restera mal fait toute leur vie, ça c'est sûr.
Alors on est dans des cadres de vie totalement différents, mais avec un cadre familial très restrictif en fait au final, et qui a été très, qui a bâti un peu leur identité. D'un côté, on a la deuxième personne qui parle, qui vient clairement d'un milieu noble. C'est des codes très stricts dont il est très dur de s'extirper. Et de l'autre côté, on a cette forme de violence très systématique, mais qui marque aussi une distance, qui marque aussi cette phrase de la première personne, c'est de dire « Mais en fait, on doit montrer qu'on est des hommes, on ne peut pas montrer nos émotions. » Ça, je trouve que c'est quelque chose quand même de très fort et qui est très présent, en effet, chez nos jeunes. On ne peut pas montrer nos émotions.
Est-ce que l'on peut dire, après l'écoute de ces deux témoignages, que les jeunes vivent une insécurité affective ?
Oui, je pense bien, parce que... Mais déjà, le premier jeune dit qu'il ne fera pas comme son père a fait. Il le fera autrement, il ne tapera pas l'enfant parce qu'il sait que finalement, le fait que son papa l'a tapé, ça l'a blessé profondément et qu'il n'a pas eu l'attention de son père, en tout cas l'attention que lui voulait. Et puis l'autre jeune aussi dit clairement qu'il n'a pas eu l'attention de son papa parce qu'il n'y a pas eu ses moments d'écoute et puis de sa maman aussi. Donc oui, je pense sincèrement que les deux ont vécu les mêmes choses finalement. Cette insécurité et ce manque d'attention des deux parents.
Un des deux jeunes aborde la question des valeurs. Est-ce que c'est un concept difficile à expliquer ?
Difficile à expliquer, mais finalement on le vit pleinement. Dans les valeurs régissent nos vies, régissent ce qu'on fait, nos actions. Mais oui, parce qu'une valeur n'est pas la même pour une autre personne. Juste en discuter, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu difficile.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas pris ce temps-là, justement, avant d'en discuter ensemble. Donc maintenant, il y a un écart qui s'est un petit peu creusé, j'ai l'impression, dans la société.
Dans la société.
En général.
Déjà, qu'est-ce que les valeurs ça change tellement de définition par rapport à quelle position on a dans la société. De ma position, il y a des valeurs que je remets en question du quotidien de certains jeunes que je vois ici. Donc, on est dans un milieu quand même assez masculiniste, de manière générale. Donc on bosse en généralité ici avec des garçons hétéronormés, donc avec des jeunes qui vivent dans ce milieu très masculiniste où il faut mettre en avant le fait qu'on est des hommes, que c'est ça notre puissance, que c'est comme ça qu'on se construit, voilà. Et du coup ici, on peut l'avoir dans la plupart des jeunes qui sont là, quand on parle par exemple, je prends un exemple très concret, c'est quand on parle d'homosexualité, c'est très dur de parler d'homosexualité avec ces jeunes. Si je le prends de manière très neutre, j'ai envie de combattre ça. Mais en fait, ici, on est dans un autre combat. On est dans la compréhension. Qu'est-ce qui amène ces jeunes à être dans le rejet de la différence quand ça touche à leur masculinité ?
Pourquoi quand on touche aux valeurs de quelqu'un, ça peut lui faire mal ?
Parce que c'est ce qu'il est. Si on le touche à ses valeurs, on le touche lui. Du coup, on va un petit peu lui faire douter de ce qu'il est, faire douter de ce qu'il a appris, de ce que ses parents lui ont inculqué. De ce qu'il a compris de la société. Donc on va venir le mettre en doute sur ce qu'il est dans sa globalité. Donc c'est sûr que c'est jamais plaisant de se remettre en question et de se dire peut-être qu'on est dans le faux. On vit cette incertitude et c'est jamais plaisant. Donc je pense que c'est pour ça. Mais je pense qu'il faut aussi dépasser cette peur-là parce qu'en la dépassant, on ouvre encore un arc beaucoup plus grand de ce qu'on est. Si on n'accepte pas le changement et l'incertitude, je pense qu'on reste bloqué dans quelque chose qui peut nous être néfaste. Alors que si on accepte de se raisonner et d'accepter l'autre et de ce qu'il dit sur nous, je pense qu'on ouvre encore plus le champ des possibles et on évolue beaucoup plus et on est beaucoup plus heureux, je pense.
Est-ce que l'on peut être en doute par rapport aux valeurs que portent nos parents ?
Oui, je pense. Je pense qu'à un moment donné, on est dans le doute. On doute beaucoup, on se pose des questions. Et puis je pense, moi aussi, je pense qu'il y a un moment où on doute et où on fait un choix. Soit d'adhérer complètement et aveuglément aux valeurs de nos parents, sans les questionner. Soit on va dans l'opposé. Ou soit, encore une fois, on prend un peu... de tout, on prend un peu des valeurs de nos parents et on essaye de se construire aussi une identité et de se construire ses propres valeurs. Je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est de prendre un peu de nos parents, mais de les questionner quand même, de ne pas y aller aveuglément pour ne pas se brider. Mais il faut aussi essayer de voir autre chose et de se créer ses propres valeurs pour ne pas se sentir un peu bloqué à un moment donné dans nos vies.
Moi, avec mes enfants... Je vois bien que ce n'est pas les mêmes du tout valeurs que moi, mais moi, je les comprends. Et je dis qu'ils ont bien raison. Et surtout, mais ça, ce n'est pas toujours facile pour les parents. Moi, je voulais être indépendante de la liberté, donc je l'ai passé à mes enfants, moi, ça. Sans m'en rendre compte, même. Ma façon d'être, peut-être. Eh bien, par exemple, ici, il y a 8 jours, il y a un de mes enfants qui était là. À un moment de la conversation... qu'on parle aussi, donc, parce que ces gens-là, ils ont eu des enfants, donc ils ont aussi des problèmes avec mes petits-enfants. Et je lui ai encore dit, écoute, il y a une phrase que j'ai toujours dit dans ma vie, les enfants ne doivent rien à leurs parents. Et elle a dit, maman, moi je pense comme toi, tout ce que les parents ont fait pour les enfants, c'est qu'ils l'ont bien voulu, puisque jusqu'à preuve du contraire, un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Maintenant, est-ce que l'enfant n'est redevable de rien ? Non, par exemple, financièrement, absolument pas pour moi. Les lois sont mal faites d'ailleurs. Mais les parents, ils doivent tout à leurs enfants, tout.
Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de questionner ces valeurs-là, de les discuter notamment avec mes parents. Et heureusement pour moi, ils ont accepté quelques questionnements. Ils ont accepté que je puisse créer, en parallèle de leurs valeurs, mes propres valeurs à moi, et d'en parler et d'en discuter. Mais je suis consciente qu'il y a peut-être dans d'autres familles, dans d'autres milieux, que c'est un peu plus compliqué, et que c'est peut-être ça justement qui bloque ces gens-là et qui les font partir dans des extrêmes finalement. Cette création de frustration. Donc j'en suis consciente.
Ben moi je comprends qu'on n'ait pas les mêmes valeurs tout à fait. Et je vais même dire que personnellement, j'ai une de mes petites filles qui a fait des études. Mais maintenant, elle n'a pas eu d'échec et elle a un diplôme. Mais elle ne fait pas le métier pour lequel elle a eu un diplôme. Et elle fait maintenant ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle est, pour moi, une vieille mamie, elle est dans l'insécurité financière. Mais c'est son bonheur. Voilà. Et ce que je fais, je lui fais confiance. Mais vous savez, là, je vais vous dire une phrase. La façon dont nos jeunes veulent vivre, c'est qu'ils ne misent pas sur la longévité de la vie. Ils visent ce qu'ils ont envie de faire et ça durera ce que ça durera. J'ai des copines de 85 ans. Mais voilà, nous, quand on était jeunes, on n'avait que comme envie, c'était surtout de travailler, argent, et confort, c'est tout. Le jeune n'a plus ces valeurs-là, parce qu'il a tellement vu de choses, ça je crois que c'est un mondial, ça n'est pas uniquement en Belgique, c'est parce que dans le monde dans lequel on vit, les jeunes maintenant voient bien que miser sur l'avenir, c'est trop aléatoire.
Et toi, Dounia, en tant que future éducatrice qui se pose des questions aussi sur l'accompagnement, plus en général, comment rassurer un adolescent qui vit ce genre d'insécurité ?
Mais déjà, de créer une relation de confiance où on peut parler de tout, où on peut Moi, si j'étais éduque de ces deux jeunes hommes-là, j'essaierais de créer une relation de confiance, d'abord, et lui d'en parler avec eux. Vraiment que quand ils me voient, ils se disent bah, avec Dounia, on peut parler de tout et on peut discuter de tout sans avoir honte. Et de vraiment dire tout ce qu'on a dans le cœur et d'en discuter.
D'où viennent cette façon de voir les choses, Dounia?
Mais je pense parce qu'on l'a déjà fait avec moi. À plusieurs reprises, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de rencontrer cette personne avec qui je me dis ben, je peux parler de tout, elle peut me redonner confiance, on peut discuter de tout ce qui se passe. Parce qu'on vit tous des moments difficiles, on est tous dans des moments d'incertitude et avoir et se dire qu'il y a une personne là pour nous, et ben ça aide beaucoup juste de parler. Donc j'ai ce besoin d'être là pour les personnes également, parce qu'on a été là pour moi.
Que retenir de ce premier épisode? Eh bien, je crois que questionner les valeurs qui de toute façon régissent nos vies et nos actions est nécessaire. Que de les questionner au sein de sa propre famille, ça peut être une démarche difficile, mais nécessaire. Que de petits conflits de valeurs permettent de développer son opinion et parfois nous permet d'éviter une certaine frustration. Qu'il faut pouvoir dépasser les incertitudes et l'aléatoire d'une société qui change, ensemble si possible. Samarcande, c'est une AMO, mais aussi des podcasts.